VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. La justice américaine a indiqué jeudi avoir inculpé un Malien déjà détenu dans son pays pour avoir joué un rôle central dans deux attaques djihadistes au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire qui avaient fait en 2016 49 morts, dont un ressortissant américain. Le point avec Jean-Roger Bion.
Mimi Ould Baba, 32 ans, est accusé d'avoir aidé à préparer l'attaque du 15 janvier 2016 contre le café-restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou. L'attentat avait fait 30 morts, majoritairement des Occidentaux, dont l'Américain Michael Redring, qui dirigeait un orphelinat et un centre d'aide pour femmes au Burkina, a rappelé le ministère américain de la Justice dans un communiqué. L'attaque avait été revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique Aqmi et le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Mimi Ould Baba est aussi accusé d'avoir participé à la préparation de l'attaque du 13 mars 2016 sur la plage de la populaire station balnéaire de Grand Bassam près d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle avait fait 19 morts dont 4 Français. Mimi Ould Baba a été arrêtée en janvier 2017 au Mali par les soldats français déployés dans ce pays et accusé d'avoir été l'un des cerveaux de l'attaque de Grand Bassam revendiquée par Aqmi. Deux mois plus tard, les autorités burkinabées l'avaient identifié également comme le chef des opérations de l'attaque de Ouagadougou. Nous soutenons pleinement l'enquête malienne et continuerons nos efforts avec les autorités là-bas en vue d'arriver à notre objectif partagé de tenir Baba pour responsable de ses crimes, a déclaré le ministère américain sans préciser s'il demanderait l'extradition de l'accusé après la procédure malienne.
Afrique de l'Ouest toujours, les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest dénoncent ce qu'ils ont appelé la décision unilatérale de renommer ECO, le franc CFA, annoncé en décembre par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, ainsi que la Guinée, qui ne fait pas partie de la zone CFA, affirme que cette décision n'était pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique. Un sommet réunissant les chefs d'État de ces 6 pays est prévu bientôt pour décider de la conduite à suivre. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Toronto, au Canada, l'économiste Prime Nyamoya.
Le Nigeria représente environ 75% du produit intérieur brut de la CDAO aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, quant à elle, représente 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 États ouest-africains qui ont en commun le franc CFA. Donc, s'il n'y a pas d'accord préalable sur le plan politique, je vois très mal comment cette monnaie verra le jour. Et je doute fort qu'il puisse y avoir un consensus rapidement sur cette question. Parce qu'il y a ici une contradiction entre deux conceptions diamétralement différentes.
Il y a donc un problème au niveau de la démarche.
Il y a beaucoup de zones d'ombre. Toutes ces questions ne sont pas encore résolues. Il faudra d'abord que ces zones d'ombre soient complètement identifiées avant de pouvoir avancer vers la création d'une monnaie commune, l'ECO, pour l'ensemble de la CDAO.
Donc vous voulez dire que ces pays ne sont pas prêts?
Non, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts.
La création d'une monnaie régionale, c'est tout un travail des techniciens qui doivent identifier les différents facteurs pour mettre en marche la monnaie. Et après vient la décision politique. Mais où est-ce que ça bloque normalement? Si on a tout, on devrait y aller rapidement.
Moi, à mon avis, c'est que les politiques sont toujours très pressés de prendre une décision sans certainement attendre l'avis des spécialistes, comme c'est souvent le cas. Et puis, on arrive à des situations où les chefs d'État font des déclarations qui ne sont pas suivies des faits. Par exemple, on s'était convenu en juillet 2020, il y aurait création de l'ECO. Bon, apparemment, ce ne sera pas le cas. Les enjeux politiques priment sur les enjeux économiques. Sur la monnaie, d'abord, c'est une question qui doit être débattue au niveau des politiques avant de descendre en bas dans le domaine technique. La gestion du monnaie, la politique monétaire, les taux d'intérêt, tous ces problèmes sont d'essence technique. Bon, mais il faut préalablement qu'il y ait une entente sur le plan politique. Si ce n'est pas le cas, moi je vois très mal comment cette monnaie éco pourra un jour voir le jour. En tout cas pas cette année-ci. N'importe quel État peut créer une monnaie, mais la gestion de cette monnaie, le taux d'intérêt, c'est un problème hautement technique.
L'économiste Prime Nyamoya, joint à Toronto au Canada. En République démocratique du Congo, la police a empêché ce vendredi à Kinshasa une marche interdite en surveillant de près son instigateur, l'opposant et ex-candidat à la présidentielle, Martin Fayoulou, lequel dénonce les massacres et la balkanisation de l'Est de la RDC. Une personne a été légèrement blessée à la tête par la police massivement déployée dans le secteur qui a empêché et dispersé la moindre tentative d'attroupement de plus de 10 personnes en tirant des gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre ont escorté à pied et en camion le véhicule de Martin Fayoulou, le raccompagnant jusqu'à chez lui en l'empêchant de marcher avec ses partisans après une messe matinale dans le quartier populaire de Ndjili.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, poursuit ce vendredi ses entretiens à Athènes en Grèce, deux jours donc avant la conférence de Berlin en Allemagne sur le conflit dans son pays à laquelle il s'est dit prêt à participer. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans la capitale libyenne Tripoli, Faez al-Sarraj a confirmé sa présence à la conférence de Berlin. Le maréchal Khalifa Haftar a reçu hier le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas. Il a indiqué vouloir contribuer au succès de la conférence de Berlin et être prêt sur le principe à y participer. M. Haftar est arrivé hier à Athènes pour des entretiens avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères grec ce vendredi. La Grèce, qui n'a pas été invitée à la conférence de Berlin, s'oppose aux accords conclus le 27 novembre entre le chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ces accords permettent à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. M. Erdogan a déclaré hier que son pays allait commencer dès que possible à faire des forages dans ces zones contestées riches en hydrocarbures. Il y a une semaine, après une réunion au Caire, l'Égypte, la France, la Grèce et Chypre ont jugé ces accords nuls et non avenus. La Grèce menace de mettre son veto au sein de l'Union européenne si les accords Ankara-Tripoli ne sont pas annulés.
Toujours concernant la crise libyenne, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo assistera à la conférence internationale sur la Libye organisée dimanche à Berlin et fera part de son soutien aux efforts pour consolider la trêve, a indiqué jeudi le département d'État américain. Monsieur Pompeo devrait exhorter les forces étrangères à se retirer de la Libye ravagée par la guerre civile et exiger une reprise du processus de paix sous l'égide des Nations Unies, a souligné un responsable américain. Une cessation des hostilités globalement respectée est en vigueur depuis dimanche aux portes de la capitale libyenne, Tripoli. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, avait quitté dimanche Moscou sans signer l'accord de cesser le feu, à l'inverse de son rival Faez al-Sarraj, dont le gouvernement d'Union nationale GNA, basée à Tripoli, est reconnue par l'ONU. Actualité américaine, ici à Washington, le procès en vue de la destitution ou de l'acquittement du président Donald Trump a commencé hier au Sénat avec la lecture solennelle de l'acte d'accusation, compte rendu de John Lindon.
D'un ton grave, le procureur en chef Adam Schiff a lu l'acte d'accusation adopté le 18 décembre après un débat houleux à la Chambre des représentants. Donald John Trump, président des États-Unis, a été mis en accusation pour des crimes et délits graves, a-t-il énoncé. Il a agi d'une manière contraire à la confiance placée en un président et subversive pour la conduite du gouvernement. Selon l'acte d'accusation, le président a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son rival potentiel à la présidentielle de novembre, et exercer des pressions en gélant une aide militaire cruciale à l'Ukraine. Le président américain est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction à la justice. Sept élus démocrates de la Chambre basse désignés procureurs se sont présentés au Sénat.
Les sénateurs chargés de juger le chef de l'exécutif ont ensuite prêté serment et le procès a été ajourné jusqu'à mardi prochain, quand les débats de fond vont débuter. Pour sa part, le président Trump continue de se présenter en victime d'une chasse aux sorcières. Il a prédit hier que son procès devant le Sénat serait très vite bouclé. Et pour terminer, en Irak, 11 soldats américains ont été blessés dans l'attaque par l'Iran de la base aérienne d'Aïn al-Assad la semaine dernière, contrairement à ce qu'avait annoncé le président Donald Trump. C'est ce qu'a fait savoir jeudi le commandement central de l'armée américaine. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.